Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
On peut pousser aussi nos coraux à des plus 5, plus 6, voire plus 8 degrés. Donc là, on regarde ce qui se passe à la fin 2050-2100.
Pousser le corail à des températures élevées, comme ce sera le cas en 2050 et 2100, parce que le corail délate en mer Rouge, à la pointe sud d'Israël, est particulièrement résistant, au point qu'on en fait un corail cobaye, qui ne blanchit pas comme en Australie. Étienne Monin nous fait découvrir cette bizarrerie, ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde, sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Corée du Sud, en Chine et en Italie. 18h50, le monde selon Trump, saison 3, et Grégory Phillips, désormais avec une nouvelle candidate, c'est la troisième candidate démocrate, et Mike Pence, notamment le vice-président qui compare Trump à Martin Luther King. 18h55, le monde à l'envers de Franck Madvon. Ce soir, nous serons au Mexique sous le choc après l'explosion de l'oléoduc hier. Mais avant, nous allons en Chine tout de suite. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Voilà donc un chiffre auquel les Chinois ne sont pas habitués. Ils ne l'avaient jamais vu si bas, en tout cas, enfin pas depuis 30 ans. La progression du PIB a été de 6,6% en 2018. L'effet ralenti se confirme chaque trimestre. Et au passage d'ailleurs, puisque le FMI l'a annoncé aujourd'hui à Davos, les prévisions de croissance sont à 6,2% pour 2019. La question de ce soir donc est de savoir si l'économie chinoise est en crise et surtout à quel degré, ce que ça veut dire pour nous. Bonsoir Sophie Boisseau-Durocher.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous avez co-écrit La Chine et le monde et ET, EST aussi en même temps, et c'est publié chez Odile Jacob. D'abord, les chiffres annoncés, Sophie Boisseau-Durocher, parce qu'on a un peu l'habitude que Pékin fasse un peu tout et n'importe quoi avec ces chiffres. Est-ce qu'on les croit, les 6 plus 6, ou est-ce qu'on doit croire même d'autres rapports qui nous parlaient même d'une croissance à 1,67? Donc la vérité doit être au milieu, j'imagine?
Non, même pas, on ne sait pas.
D'accord.
On ne sait pas, je crois qu'il y a un grand flou. C'est très inquiétant parce qu'on est dépendant aujourd'hui de la santé de l'économie chinoise. Mmh. Et donc, on s'interroge pour savoir quel est véritablement l'état de cette économie. Donc, on est là, si vous voulez, dans une espèce de blocage. À la fois, on ne sait pas, et en même temps, on va être impacté. Donc, si vous voulez, ça pose un vrai problème de système.
Mais alors, quel critère objectif nous permettrait de nous approcher du bon chiffre, en fait ?
Alors, c'est très difficile parce que nous n'avons pas accès aux vrais chiffres. Il y a très peu de gens qui ont véritablement accès à l'ensemble des informations. Ce qu'on sait, c'est qu'on est aujourd'hui dans une crise de confiance. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que tous ces petits signaux qui s'accumulaient depuis plusieurs années, aujourd'hui nous alertent véritablement. Nous alertent véritablement parce que à nouveau, nous allons être impactés par les mauvais résultats, et puis parce qu'on se rend compte de notre impuissance. Et c'est véritablement ça, si vous voulez, que nous avons voulu montrer dans le livre que nous venons d'écrire avec Emmanuel Dubois de Prisque. C'est précisément comment la Chine, aujourd'hui, fait système et impacte sur le système mondial. Quel va être l'avenir de ce système mondial quand on n'est même pas capable de pouvoir prévoir des chiffres de croissance fiables?
Alors, on va venir effectivement aux conséquences qui peut y avoir effectivement sur nous. Les impacts visibles de son manque de croissance, quels sont-ils en Chine?
Alors, les impacts visibles sont, d'une part, la baisse des marchés financiers, d'autre part, la faillite des entreprises, notamment des petites entreprises, ce qu'on sait moins, des emprunts qui ne sont pas remboursés, la baisse des grands marchés, par exemple le marché de l'automobile, il est à son plus bas niveau, les ventes d'automobiles sont à leur plus bas niveau depuis 20 ans, puis les achats dans les shopping malls sont également en berne. Donc, si vous voulez, on a une multitude de petits indices qui, aujourd'hui, posent problème. Et puis d'autre part, on a encore le problème de la dette qui est absolument colossale, la dette publique, 250% du PIB, donc c'est absolument colossal. On a également le problème de la balance commerciale, même la balance commerciale chinoise est en train de chuter avant même qu'on ressente l'impact des mesures prises par l'administration Trump. Donc il y a beaucoup de signaux qui nous alertent.
Le fait que les ventes de voitures soient en baisse, On a vu aussi que Apple s'inquiétait d'un certain nombre de ventes, de baisse de ses ventes. Est-ce que c'est effectivement une crise de confiance réellement, ou est-ce que c'est un vrai pouvoir d'achat qui baisse? Alors, est-ce qu'on sait ça ou même pas en fait?
Alors, je crois qu'on ne le sait pas. Hein. On ne le sait pas. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'on a aujourd'hui une crise de confiance parce que précisément, on est confronté au gros mensonge de la statistique chinoise. Vous savez, on a déjà eu ces mensonges et on le montre bien dans notre livre. On a déjà eu ces mensonges dans les années 60 avec le grand bond en avant.
Mais j'allais vous demander, est-ce qu'on a déjà eu des chiffres même au fond?
Alors, a posteriori, si vous voulez, on arrive à retracer, mais a posteriori seulement. Donc là, la vraie question qui alerte les marchés financiers mondiaux, c'est est-ce qu'on est face à une crise systémique et dans quelle mesure elle va impacter les autres marchés? La crise de confiance est une crise non seulement des consommateurs chinois envers leur gouvernement et les tricheries, les distorsions de la statistique, mais c'est également une crise qui va affecter les marchés boursiers en Asie et puis plus largement dans le reste du monde.
Donc est-ce qu'on compare, vous avez peut-être lu comme moi Le Monde cet après-midi, qui comparait carrément à la crise de 29, ou est-ce qu'on compare plutôt à celle de 2008, qui avait donné lieu d'ailleurs à, alors comme partout, mais pas seulement, mais à une intervention massive, on va dire, dans l'économie chinoise? On compare avec quoi ce qui se passe aujourd'hui? C'est une crise qui ressemble à quoi?
Oui, ce que disait l'article du Monde, qui reprenait en fait les propos d'un professeur d'économie de l'Université populaire de Pékin, c'était que les entreprises privées n'investissent plus. Et donc, on est véritablement dans un... Ils sont dans cette crise de confiance telle qu'ils n'investissent plus. Et là, effectivement, on peut voir que l'économie pourrait s'enrayer très facilement. Donc, effectivement, on est presque dans une configuration proche de celle de 1929. Voilà, donc c'est très grave. Et à nouveau, j'insiste Allez-y. Bien là-dessus, ce qui me semble le plus grave, c'est que on n'est pas capable de lire correctement cette crise et son impact, alors qu'elle va directement impacter sur l'état de nos économies.
Vous avez parlé de faillite. Est-ce que ça veut dire qu'en Chine, on peut donner un chiffre du chômage? Est-ce qu'on peut imaginer ça ou pas?
Non, bien sûr. Et puis, alors, vous savez, il y a quand même une chose qui est étonnante, c'est que, et ça, à nouveau, on le montre, on essaye de le montrer dans notre ouvrage, c'est la dimension performative des statistiques. Il ne faut pas qu'il y ait de chômage, il faut que le taux d'emploi de la population soit de tant de pourcents, et on va dire que c'est de tant de pourcents. Mais après, a posteriori, on se rend compte, et on a aujourd'hui quand même des gouverneurs, celui de la Mongolie du Nord, celui de Tianjin, celui de la province du Liaoning, qui admettent avoir truqué les chiffres.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a un chômage en Chine.
Il y a un chômage, il y a une pauvreté.
Alors
Chine,
ça, on est d'accord.
Il y a un chômage, il y a une pauvreté, il y a des inégalités colossales, tout le monde ne profite pas de façon équitable de la croissance. Donc c'est long, si vous voulez. Ce qui est grave aussi, c'est que face à ce ralentissement de l'économie, est-ce que on va être confronté à une crise politique d'envergure, parce que c'est toute la politique aussi de ces 30 dernières années qui est remis en cause.
Alors j'allais y venir, mais on peut y aller tout de suite. Est-ce que effectivement, jusqu'à quel point ce ralentissement chinois est un signe avant-coureur aussi que les inégalités vont finir par créer un vrai problème politique, qu'il peut y avoir même une partie de la population qui refuse un certain nombre de choses dans la manière dont aujourd'hui l'économie fonctionne? Est-ce qu'on y est là? Est-ce que les heurts, on va dire, face à Xi Jinping en ce moment peuvent aller jusque-là ou pas? Est-ce qu'il y a des signes, même des signes faibles qui disent ça aujourd'hui ou pas?
Écoutez, ça me semble peu envisageable. C'est possible, mais c'est peu envisageable. Tout simplement parce que Xi Jinping a mis en place des instruments de contrôle de la société tels que la société a peur. Et donc, on serre les dents et on continue d'avancer. Et ça, c'est quand même très grave également. L'article du Monde le montrait bien cet après-midi, l'interview du professeur Xiang montrait bien que le système chinois est face à ses limites, en fait, et est-ce qu'on peut ouvrir l'économie tout en maintenant un rôle de l'État prépondérant dans ses circuits économiques et en empêchant une ouverture politique?
Alors,
et on est là au pied du mur.
Et d'autant qu'on est en train de fêter, on va le faire toute l'année en Chine, les fameuses 40 ans du lancement des réformes de Deng Xiaoping, mais au fond, on a l'impression que Xi Jinping, lui, n'ouvre pas, mais il ferme, notamment sur beaucoup de répression, sous couvert d'une lutte contre la corruption, etc. Est-ce qu'à un moment, un pouvoir très fort est en train de freiner l'économie chinoise, au fond?
Eh bien, c'est effectivement la question importante. C'est la question qui est posée aujourd'hui par quelques intellectuels chinois et qui appelle à une réforme du système. Moi, je trouve ça quand même très intéressant. Au fond, le 40e anniversaire du lancement des réformes de Deng Xiaoping sert également à critiquer le pouvoir chinois, le pouvoir de Xi, tout simplement parce que les réformes sont suspendues et elles empêchent tout progrès de l'économie.
C'est pour ça que je vous demandais si socialement il pouvait se passer des choses, parce que c'est quand même intéressant qu'on commence doucement à entendre certaines voix d'intellectuels en train de dire au moins ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on est à la croisée des chemins aujourd'hui et qu'on peut pas à la fois essayer d'ouvrir l'économie tout en fermant le pays. Donc à la fois ces voix-là, c'est quand même un peu neuf ou pas du tout?
Alors, il y a toujours eu une petite contestation, je dirais, certes, mais une contestation qui ne dure pas très longtemps. À nouveau, il y a eu toute une vidéo qui a été tournée sur le discours du professeur à l'université, où il explique où sont, à son avis, les faiblesses de l'économie chinoise. Cette vidéo a circulé pendant quelques jours et puis a tout de suite été censurée. Donc non, il n'y a pas de possibilité qu'un mouvement de grande ampleur, l'Internet est complètement surveillé. Voilà, donc ça va être difficile. Ça va être difficile, et ce qui veut dire qu'au fond, la contestation du pouvoir ne peut venir que de l'intérieur du Parti communiste et notamment du Comité central.
Qui a été très très bien verrouillé par Xi Jinping. Tout récemment, Sophie Boissieu-Durocher, la guerre commerciale avec les États-Unis, est-ce qu'elle est la cause d'une chute qui est plus brutale, ou est-ce que cette crise ne fait qu'accentuer au fond les faiblesses de l'économie, de l'œuf et de la poule là-dedans qui est responsable?
Non, il est évident qu'il y a des faiblesses propres, et ça, à nouveau, nous l'expliquons bien dans notre livre, il y a des faiblesses propres à l'économie chinoise, la façon dont la Chine a utilisé la mondialisation pour accélérer son propre processus de développement était bien antérieure à la guerre commerciale avec les États-Unis. Ce qui est assez surprenant, c'est que nous ayons laissé faire cet usage, je dirais quasiment abusif, de la mondialisation depuis l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001. Et au fond, le président Trump a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts, mais il dit quand même tout haut ce que beaucoup de gouvernements occidentaux pensent, c'est-à-dire qu'il faut mettre un terme au pillage des technologies, il faut mettre un terme à l'absence de réciprocité, il faut mettre un terme à des protections de marché qui sont absolument contraires aux règles de l'OMC et qui, en plus, ne sont pas appliquées en Chine sur nos propres marchés.
Alors, effectivement, on n'y est pas, et pourtant, il y a une trêve, plus ou moins, qui a été passée avec les Américains. En tout cas, on est là-dedans, notamment sur les droits de douane, et je t'échange les droits de douane contre des achats supplémentaires pour rééquilibrer la balance d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça permet de freiner un peu cette descente chinoise ou de freiner les conséquences de cette guerre commerciale avec les Américains ou pas?
Alors moi, ce que je trouve très intéressant dans cette guerre commerciale avec les Américains, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte tout simplement qu'on est interdépendants les uns par rapport aux autres et qu'il va donc falloir gérer ces interdépendances. Aujourd'hui, l'administration Trump, du fait de ce ralentissement, est plutôt en position de force. La vraie question, c'est est-ce qu'il va véritablement profiter de ce moment pour refondre les règles du commerce international et amener les Chinois au compromis. C'est la vraie question. Et celle-ci me semble pour l'instant tout à fait encore ouverte. Le président Trump est également très sensible aux effets de la bourse aux États-Unis. Dès que celle-ci va se plaindre, il va arrêter les discussions de fond. Personne aujourd'hui n'a intérêt à véritablement refondre l'ensemble du système international. Certainement pas les Chinois. Ils ont intérêt à des concessions ponctuelles.
Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire là pour l'instant avec les Américains. Est-ce que, de ce qu'on en sait, est-ce qu'il y a quand même une inquiétude chinoise, Sophie Boissieu-Durocher, au fond, quand même, sur l'état de cette économie, sur les ralentissements, sur les faillites, les fermetures, la dette publique dont on sait bien qu'effectivement, elle est alimentée à grands coups de millions par les Chinois pour essayer de maintenir à flot un certain nombre de choses publiques. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on sait s'il y a une vraie inquiétude du pouvoir ou pas?
Écoutez, ce qu'on note depuis un an, en fait, depuis 2017, depuis la fin, depuis le 19e congrès, c'est qu'il y a une espèce d'exaspération par rapport au culte de la personnalité de Xi Jinping. Et ça, à nouveau, on explique comment les règles du jeu politique ont énormément changé sous la présidence Xi Jinping. Il n'y a plus de collégialité, par exemple. Donc, ça veut dire plus de collégialité, ça veut dire plus de mécanismes d'autocorrection. Le président soutient le secteur public au détriment du secteur secteur privé qui est donc très mécontent. Il y a des freins politiques à la réforme et ça, on se plaint. Il y a des dajibao, hein, vous savez, ces affiches dans les universités qui sont écrites. Elles sont très vite retirées, mais néanmoins elles sont écrites, ce qui montre bien qu'il y a une exaspération importante. Le fait que certains économistes puissent donner des interviews comme celles qu'on vient de voir, qu'on vient d'avoir dans le journal Le Monde, sont quand même très importantes. Aujourd'hui, un livret a été publié par un site aux États-Unis parlant des souffrances du peuple chinois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, mais est-ce que ça va être suffisant pour pour modifier le système? C'est véritablement l'enjeu de cette crise, à la fois économique, politique, sociétale. Donc on se rend compte qu'on est face à des enjeux absolument colossaux et que la Chine nous entraîne, si vous voulez, du fait de sa masse, du fait de ses ambitions, du fait de ses ressorts civilisationnels, là aussi c'est largement décrit dans notre ouvrage, nous entraîne dans cette remise en cause.
Voilà, et on a bien noté, hein, automobile, informatique, luxe, il y a beaucoup de choses effectivement qui risquent de nous revenir, nous, en bon grand,
en tout cas. Et plus grave que ça, nos valeurs politiques.
Et ce sera évidemment à suivre, parce que c'est intéressant, évidemment, ce qui remue en ce moment en Chine. Votre ouvrage, Sophie Boisseau-Durocher, que vous avez coécrit, s'appelle « La Chine et le monde », et EST avec l'US entre parenthèses, donc « La Chine et le monde » aussi, et c'est publié aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. La suite d'Un jour dans le monde, c'est sous les radars avec...
Fabienne Saintès, Un jour dans le monde.
Amélie Perrier, le reportage d'Étienne Monin ce soir aussi, le tour de la planète continue. Il passe par la Belgique avec Balthazar. Entertainment, c'est dans la playlist de France Inter. Balthazar, dites-moi, ils sont belges.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Ils sont belges, mais c'est pas grave. Amélie Perrier pour Sous les radars. On commence par un silence, Amélie, pour sauver des instruments parmi les plus précieux au monde.
En Italie, nous allons à Crémone. Le maire vient de prendre une ordonnance pour forcer la ville à se taire. Crémone, c'est le berceau de la très grande lutherie. Alors, récit, c'est David Aaron Carpenter qui joue la suite de Bach numéro 3 sur un alto, un Stradivarius, peut-être le plus cher du monde. Il a été estimé entre 35 et 45 millions d'euros, ouais, quand même. Des Stradivarius qui sont justement fabriqués à Crémone. Alors le maire de la ville vient d'interdire jusqu'au 9 février la circulation des voitures, les chantiers, tout ce qui pourrait perturber l'enregistrement de 4 instruments fabriqués il y a plus de 300 ans par les grands luthiers de Crémone, Amati, Guarneri del Guesu et donc Stradivarius. La zone autour de l'auditorium est bouclée le temps de la prise de son pour conserver à jamais le timbre unique de ces trésors du XVIIe et XVIIIe siècle, délicat, fragile, peut-être pas éternel. Et toute la ville a bien compris l'enjeu, hein. On raconte cette histoire avec une serveuse de bar qui avoue avoir passé l'un des pires moments de sa carrière quand la semaine dernière elle a fait tomber un verre, fracas, client mortifié. La police est entrée dans le bar et a demandé à tout le monde de rester calme et surtout silencieux.
Ah, c'est magnifique, allez, un tout autre style, là aussi on parle de musique, ça vaut des milliards en Corée du Sud.
Vous connaissez ça?
Ouais.
C'est de la K-pop, et notamment ce groupe BTS, 7 garçons qui vont devoir poser leur micro pendant 2 ans.
2 ans, c'est long.
En même temps, bon, pas de jugement.
C'est pas du Stradivarius non plus, on est d'accord.
Voilà, c'est ça. Alors, ce sont donc des stars planétaires. Des centaines de millions de vues pour chaque clip, des tournées dans des stades du monde entier. Des idoles qui sont l'une des exportations musicales les plus lucratives de Corée du Sud. Un institut de recherche de Séoul a estimé à plus de 3,5 milliards de dollars les retombées économiques annuelles de BTS. Le boys band est la première raison pour laquelle un touriste étranger sur 13 vient visiter la Corée du Sud. Or, ces stars vont devoir s'arrêter pendant 2 ans pour faire leur service militaire. Sous les drapeaux, interdiction d'avoir un smartphone, crâne rasé, plus souvent on fait la sentinelle et surtout 21 mois de suspension obligatoire de ses études ou de sa carrière. Et ça fait débat car en Corée, certains ont des exemptions comme le footballeur de Tottenham Son Heung-min ou encore le pianiste Cho Sung-jin. Tous les médaillés olympiques également exemptés, mais pas BTS, pas les chanteurs de K-pop donc. Plus de la moitié de la population serait en faveur de la fin des exemptions. D'autres militent pour la fin carrément du service militaire, trop contraignant. L'intérêt, c'est quand même que l'armée de Corée du Sud est constituée dans sa grande majorité de conscrits et qu'en face, eh bien, il y a la Corée du Nord qui a 2 fois plus de militaires.
Allez, on va chanter toujours et pas partir très loin d'ailleurs. Les jeunes, des jeunes aux plus anciens en Chine, pardon, des personnes âgées chantent donc également.
Ouais, ils ont trouvé une nouvelle scène sur leur smartphone à l'image de Wang Tingxiang. Elle a 62 ans, elle est très coquette avec ses chapeaux en feutre rose. Alors Wang chante et se filme devant son portable quand elle entonne ses chansons préférées. Elle fait ça sur l'application Kwangmin Karaoke, le karaoke pour tous, où elle a 23 000 abonnés qui commentent ses performances tournées chez elle, dans son canapé.
Non, c'est la moitié du
dans
Stade de France.
Diffusion en direct, elle demande à ses fans ce qu'ils aimeraient qu'elle chante, elle s'exécute. Elle y passe en gros 2 heures par jour, nous dit l'AFP, comme beaucoup d'autres Chinois du troisième âge devenus accros au live streaming, donc ces diffusions en direct, assez peu surveillées en fait par les autorités. C'est tout l'intérêt dans un pays où le net fait l'objet de nombreuses censures. On y chante, on y partage ses exploits sportifs, ses recettes de cuisine, ses conseils beauté. Et pour Wang Tingxiang, c'est même le début d'une petite célébrité puisqu'elle vient d'être invitée à chanter cette fois à la télévision.
Eh ben écoutez, formidable. Quand est-ce qu'elle arrive chez nous cette appli, qu'on s'amuse un
Pourquoi
peu
pas.
Allez, Amélie Perrier, merci, à demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Israël que nous emmène l'escale reportage Un jour dans le monde ce soir. Je vous emmène surtout assister en fait à une sorte de miracle. Il y a à Eilat, station balnéaire très connue, très courue aussi, notamment par les amateurs de plongée, il y a là du corail hors du commun. Et comment ça hors du commun? Eh bien, il semble résister au réchauffement climatique, à l'augmentation de la température de la mer Rouge, contrairement par exemple à la barrière de corail australienne qui blanchit à grande échelle ces dernières années à cause du réchauffement. Étienne Monin, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Étienne, il y a un institut à Eilat qui étudie cette résistance incroyable du corail, apparemment taillée pour faire face au changement climatique. Et c'est là que nous emmenons.
Là, c'est le simulateur de mer Rouge. Donc, c'est un endroit dans lequel on va recréer des conditions expérimentales qui correspondent à des conditions de température et d'acidification de l'océan, donc de pH. On aura dans les 10 prochaines années ou plus en mer Rouge.
Ça
sous une grande bâche qui protège du soleil hivernal, devant une petite armée d'aquariums, Guillaume Bonprandi présente l'outil qui permet de tester la résistance des coraux du golfe d'Aqaba. On est tout au sud d'Israël, dans l'Institut interuniversitaire des sciences marines, face à un phénomène, un corail qui ne plie pas pour l'instant devant les effets du réchauffement climatique. Maus Finn dirige le laboratoire qui étudie ces coraux.
C'est une situation très particulière et ça permet à ce corail d'être à l'aise les étés et même de supporter la hausse des températures. Et on pense qu'on a une centaine d'années avant que ce corail ne soit menacé par l'augmentation des températures de l'eau.
Ce corail sert donc de cobaye. Des branches sont élevées dans une pouponnière, puis testées dans le simulateur de mer rouge présenté par Guillaume Bonprandi pour mesurer sa résistance aux températures élevées.
On peut pousser aussi nos coraux à des plus 5, plus 6, voire plus 8 degrés. Donc là, on regarde ce qui se passe à la fin 2050-2100. Le maximum qu'on ait réalisé, c'est 36 degrés, où on commençait à observer un signe de blanchiment. Mais pas de blanchiment massif qu'on pourrait avoir dans d'autres pays comme en Australie.
Le phénomène s'explique par une sélection naturelle amorcée il y a plus de 6000 ans, quand les organismes ont recommencé à peupler la mer Rouge. D'après Maus Finn, des coraux ont migré depuis les mers très chaudes du sud vers le nord plus tempéré.
Ici dans le golfe d'Aqaba, on est dans une situation particulière. Peut-être la seule dans laquelle le corail a passé une sélection naturelle pour sa résistance thermale ou pour les hautes températures. Seul le corail qui pouvait résister aux fortes températures dans le sud de la mer Rouge a réellement pu émigrer vers le nord en passant cette espèce de filtre naturel. Il a pu alors s'installer dans le golfe d'Aqaba, qui a 6 degrés de moins que l'environnement d'où il vient et auquel il a survécu.
Ce corail attire des équipes de chercheurs venus du monde entier. C'est un écosystème complexe. Sandrine Bessette est microbiologiste à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, installée pour une semaine dans l'Institut.
Le corail, c'est un animal qui sécrète en fait un squelette, une petite logette calcaire dans laquelle il va vivre en fait. Et à l'intérieur de ces tissus, il héberge en fait différentes petites algues qui vont l'aider en fait à se nourrir.
Qu'est-ce qui disparaît dans cet assemblage lorsque le corail blanchit sous l'effet du réchauffement des eaux ?
Il expulse en fait les petites algues qu'il héberge à l'intérieur de ces tissus. Et en fait, ces petites algues, elles lui apportent en fait la couleur du corail que l'on observe.
Les propriétés du corail du golfe d'Aqaba ont été découvertes il y a à peine 5 ans. Aujourd'hui, on connaît le pourquoi, mais pas encore le comment. Céline Lousser-Fonta regarde donc ce qui se passe dans les cellules quand la température augmente. Elle est microscopiste, elle appartient à l'École polytechnique fédérale de Lausanne.
On est vraiment au début de cette recherche-là. Pour l'instant, c'est pour ça qu'il y a ce type de grande expérience qui est mis en place avec des stress thermiques. Donc on va augmenter la température pour voir la réaction des coraux et des petites algues. On en est vraiment au tout début.
L'enjeu est majeur. L'espèce est menacée à l'échelle du globe par le réchauffement des mers, alors qu'elle représente un maillon essentiel et une ressource importante, dit le chercheur Maus Finn.
Non seulement le corail permet d'entretenir de nombreuses espèces, mais il alimente aussi une diversité chimique qui peut être utilisée par l'homme en faisant des médicaments et des produits pharmaceutiques. Donc maintenant que le climat change et qu'il menace le corail, tout le monde soudainement a réalisé qu'on doit faire quelque chose rapidement et comprendre quelle va être l'influence du climat sur le corail. Is likely to affect
coral reefs. Le corail du golfe d'Aqaba fait donc aujourd'hui figure de patrimoine et de richesse. Il renferme l'espoir d'un mécanisme de préservation à l'échelle de l'espèce. Mais il est situé au carrefour de 4 pays aux relations plus ou moins froides. Un premier pont vient d'être lancé avec une rencontre des équipes scientifiques organisée à Berne en mars prochain. La diplomatie suisse se met au service de ce corail hors norme. L'ambassadeur à Tel Aviv, Jean-Daniel Ruch.
La clé pour la réussite d'un projet comme ça sur le long terme, c'est-à-dire la préservation de la barrière de corail, c'est la coopération internationale. Et l'étape suivante, ça doit être de sensibiliser les responsables des politiques environnementales, mais aussi d'urbanisme et de développement des régions côtières. Il faut mettre en place un certain nombre de politiques concertées pour préserver ce trésor et cet héritage qui a une valeur inestimable.
Les pays sont Israël, la Jordanie, l'Égypte et la Mer Rouge, et ils ont pour certains d'entre eux des projets de développement qui pourraient compromettre la préservation de ce corail de la Mer Rouge.
Étienne Monin pour le reportage. Formidable Étienne, merci beaucoup. César Yaivola, il est là sur France Inter et nous amène faire un tour du côté du Cap Vert. Saudad.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Synthès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Trump, saison 3 désormais, puisque dimanche dernier, c'était le deuxième anniversaire de l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche, dimanche dernier, donc hier. Bonsoir Grégory Philips.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes en direct de Californie, Grégory, on expliquera pourquoi dans un instant. En attendant, chez vous aux États-Unis, c'est le Martin Luther King Day, donc c'est férié. Et c'est ce jour, évidemment tout un symbole, qui a été choisi par la sénatrice de Californie, Kamala Harris, pour se déclarer candidate à l'investiture démocrate. C'est donc la troisième, si je ne m'abuse, en tout cas la course à la présidentielle 2020, c'est bien parti, hein.
Oui, et si Kamala Harris a choisi ce jour d'hommage à Martin Luther King pour lancer sa candidature, c'est évidemment pas un hasard. Cette ancienne procureure générale est née il y a 54 ans à Oakland, en Californie, d'une mère immigrée venue du sud de l'Inde et d'un père jamaïcain. Ses origines et le parcours sans faute de Kamala Harris font que ses supporters la présentent souvent comme une Obama au féminin. Harris est donc candidate à l'investiture démocrate, elle l'a dit ce matin sur ABC, et puis immédiatement sur les réseaux sociaux avec ce tout premier clip de campagne.
Truth. Justice, decency, equality, freedom, democracy.
These aren't just words.
Et voilà donc les valeurs prônées par Kamala Harris. Je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction. La sénatrice de Californie est connue pour sa pugnacité. On l'a vu lors des auditions du juge Kavanaugh au Congrès, pour son soutien au mouvement féministe, en particulier MeToo. Dans la course à l'investiture démocrate, ils sont déjà 8 candidats déclarés et d'autres vont suivre. La californienne Fabienne a peut-être un défaut pour l'instant. Elle est relativement méconnue au niveau national, mais elle vient de sortir un livre programme. Elle entame un marathon médiatique qui a débuté ce matin chez Good Morning America. Et Fabienne, je peux vous dire qu'elle sera sans aucun doute une candidate très sérieuse pour cette investiture démocrate.
Et on suivra tout ça grâce à vous, Grégory. On l'a dit, ce 21 janvier, donc aux États-Unis, on commémore Martin Luther King, jour férié en hommage aux militants des droits civiques, prix Nobel de la paix. Et que fait Trump aujourd'hui pour fêter ça ?
Alors, aucun événement à l'agenda présidentiel aujourd'hui, alors qu'on est, vous le savez, en plein shutdown, en paralysie partielle des administrations, ça fera un mois demain. Donald Trump a simplement fait ce matin une très courte visite surprise au mémorial Martin Luther King à Washington, 2 minutes sur place, accompagné par son vice-président. Et d'ailleurs, il faut quand même que je vous fasse écouter cette séquence assez étonnante durant laquelle Mike Pence compare Donald Trump à Martin Luther King. C'était hier matin sur CBS.
Une de mes citations favorites du révérend King, c'est quand il dit « Il est temps de concrétiser les promesses de la démocratie ». Quand on pense à la manière dont cet homme a changé l'Amérique, il nous a appris à le faire à travers le processus législatif vers une union parfaite. C'est exactement ce que le président Trump demande au Congrès de faire. Venez négocier avec un esprit ouvert. Alors on sécurisera la frontière et on rouvrira les administrations.
Voilà, la comparaison Martin Luther King-Trump est assez osée, on va dire. En attendant, le shutdown continue. 31e jour sans paye pour environ 800 000 fonctionnaires.
Voilà, les démocrates ont fait un rêve, mais sûrement que c'est pas le même. On parle maintenant de cette vidéo qui, depuis vendredi, fait polémique aux États-Unis. Grégory, ça se passe pendant la marche des indigènes, vendredi matin à Washington. Et qu'est-ce qui se passe alors ?
Alors, ça se déroule vendredi matin au pied du mémorial de Lincoln. En fait, il y a deux manifestations qui se croisent. La marche des indigènes, c'est comme ça que ses organisateurs l'appellent, des Indiens d'Amérique, et puis une marche anti-avortement. Que voit-on sur cette vidéo ? Eh bien, un groupe de lycéens, casquette rouge sur la tête, avec marqué dessus « Make America Great Again », qui se moque clairement des chants indiens. Vous allez voir que c'est pas aussi simple, mais voici un extrait. Tout le week-end, les réseaux sociaux dénoncent le racisme et la mort de ces lycéens qui se moquent d'un vieil indien qui plus est ancien combattant. Ces jeunes sont venus du Kentucky, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde fait un peu marche arrière. Pourquoi ? Parce qu'au début de la scène, apparemment, le groupe de jeunes lycéens s'était fait copieusement insulter par un autre groupe d'Africains-Américains. C'est là que les jeunes se sont mis à chanter, en fait, pour couvrir le bruit des insultes qui leur étaient destinées. Et c'est là que le vieil indien s'est positionné avec son tambour au milieu des deux groupes. Situation plus complexe que ce qu'on a bien voulu raconter tout le week-end aux États-Unis. D'ailleurs, tout à l'heure, CNN expliquait qu'il était capital, et on le sait évidemment, de voir l'intégralité d'une séquence vidéo avant de porter le moindre jugement.
Allez, merci beaucoup Grégory Phillips. Juste un tout petit mot, vous avez 8 secondes pour nous expliquer pourquoi vous êtes en Californie, parce qu'on va vous entendre dans peu de temps. Vous êtes à Paradise, ville dévastée par les incendies du mois de novembre, et pas loin d'Erin Brockovich, la vraie Erin Brockovich en fait.
Oui, la vraie Erin Brockovich, l'avocate de défense de l'environnement, qui est ici à Paradise pour défendre les sinistrés. Vous savez qu'il y a eu 86 morts, 14 000 maisons parties en fumée. Et donc Brockovich est là pour les soutenir et les défendre. Normalement, je vais la rencontrer ce soir et je vous raconterai ça évidemment.
Vous nous raconterez ça, on sera ravis. Merci beaucoup Grégory Phillips. Le Monde selon Trump, saison 3, c'est tous les lundis.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Et le monde à l'envers, c'est vous Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne.
Franck, au Mexique, on parle souvent du fléau de la drogue, mais un nouveau trafic est devenu un enjeu majeur dans ce pays, c'est la contrebande de carburant. Et une tragédie vraiment vient de mettre en lumière ce problème, l'explosion vendredi d'un oléoduc qui a fait 89 morts, et c'est votre monde à l'envers.
Oui, alors revenons d'abord sur ce drame, Fabienne. Ça se passe donc vendredi dans l'état d'Hidalgo, au nord de Mexico. Des trafiquants percent un oléoduc pour voler du carburant, c'est une pratique courante, et ça provoque alors un immense geyser de 7 à 10 mètres de haut. Des centaines de Mexicains se précipitent sur place avec des seaux, des bidons pour dérober un peu d'essence, une denrée précieuse en ce moment, on va y revenir. Et pour une raison encore inconnue, une énorme explosion va transformer la scène en gigantesque bûcher. Les corps s'embrasent, vous avez peut-être vu les images, Fabienne, choquantes vraiment, diffusées sur les réseaux sociaux, voire sur des chaînes de télévision, même notamment au Mexique. Le dernier bilan est donc de 89 morts et plus de 50 personnes toujours hospitalisées.
Et alors ce drame, c'est ce que vous disiez, Franck, illustre le fléau du trafic de carburant au Mexique.
Oui, le crime organisé en fait de nombreuses activités au Mexique. Et l'une d'elles consiste à voler le carburant, qui est le carburant de la compagnie nationale, Pemex, qui a le monopole. Le phénomène s'est accentué au début des années 2010. Les cours du pétrole sont alors en hausse. Et les cartels y voient une nouvelle source de revenus, percer des oléoducs pour siphonner l'essence. Ça ne coûte presque rien. Le carburant est revendu au marché noir. C'est lucratif et assez facile à organiser. Il y a environ 9000 km d'oléoduc au Mexique. Il suffit de verser des pots de vin aux bonnes personnes pour identifier les meilleurs endroits, les portions vulnérables, souvent à la campagne. Et tout le monde est impliqué, des employés de la Pemex, la compagnie nationale, donc la police et l'armée qui ferment les yeux, la population qui profite de cette essence peu chère, parfois même les stations essence officielles qui distribuent ce carburant.
Et puis des trafiquants qui sont même populaires en fait.
Ouais, on les appelle les huachicoleros, du nom du huachicol. C'est un alcool frelaté à base de sucre de canne. Et comme les narcotrafiquants, ils sont à l'origine d'un folklore avec des figures religieuses. Alors il faut voir ça, elles sont représentées avec en main un tuyau et un bidon d'essence. Et des chansons leur rendent aussi hommage. Le cartel de la gasolina, le cartel de l'essence, c'est signé Uriel Henao. Alors je vous décris pas le bonhomme, mais si vous demande votre portefeuille, vous avez tendance à lui donner. ces trafiquants sont parfois perçus en fait comme des Robins des Bois qui redistribuent les richesses à la population.
Alors sauf que le nouveau président mexicain a décidé de s'attaquer à ce fléau donc.
Oui, le président de gauche, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, qui en a fait l'un des premiers objectifs de sa lutte anticorruption. Le trafic de carburant coûte à l'État 3 milliards de dollars par an. On a recensé en 2018 plus de 12 500 percements illégaux d'oléoducs seulement pendant les 10 premiers mois. Les investisseurs fuient le secteur de l'énergie. AMLO a donc déployé des militaires sur le territoire et il a fermé, stoppé des oléoducs, ce qui a entraîné une importante pénurie d'essence dans le pays. C'est pourquoi des Mexicains se seraient précipités vendredi dans l'état d'Hidalgo avec leur jerrycan. Pour beaucoup, le président AMLO porte ainsi en partie la responsabilité de ce drame de vendredi. Des soldats présents sont par ailleurs accusés de n'avoir rien fait pour dissuader les voleurs. La lutte contre le trafic de carburant était déjà contestée. La pénurie d'essence affecte l'économie. La tragédie de vendredi met un peu plus en doute la stratégie du président AMLO.
Franck Madvon et Le Monde à l'envers à demain. Franck, merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal de Sébastien Paour. Et puis, le téléphone sonne à tout de suite.